marché couvert. Allez, allez,
allez. Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison à la table des bons vivants avec une nouvelle musique, vous entendez, hein, on remercie Xavier Joly et son orchestre et puis un grand merci à vous pour votre fidélité à nos émissions pendant cet été. Ce matin on vous emmène cueillir des figues dans le sud avant de les déguster. À l'heure où les moissons se terminent, nous allons essayer d'y voir plus clair parmi les blés, les différentes céréales produites en France. Le tout accompagné de recettes de saison bien sûr. Et puis évidemment, vous les attendez, ils sont là, mais mousquetaires de la fourchette répondent présents. Il a son cartable rempli de bonnes bouteilles. Il a fourré sa trousse de tire-bouchon. Notre expert en vin répond présent. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Et je suis ravi, ravi d'être là pour cette saison 2 que je vous souhaite encore meilleure.
Mais oui,
que la première.
Nous sommes là au taquet, comme on dit. Son cahier de texte est rempli de bons conseils. Le chef bistronome Yves Candebord attaque la rentrée à pleines dents. Bonjour Yves Candebord.
Oui Laurent, on l'attaque en cuisinant pour changer. Cuisinons, cuisinons.
Et une nouvelle musique, ça vous plaît cette petite
c'est
musique?
C'est magnifique,
vous, hein.
Ça nous met, voilà, ça nous met de, un peu de gaieté dans le cœur.
Exactement. Marion Sauveur revient dans un instant avec un nouveau journal de la cuisine. L'ami du déjeuner, Jean-Luc Petit-Renaud, est encore en vacances. Mais rassurez-vous, il nous a envoyé une carte postale sonore. Nous l'écouterons avant midi. Et midi, ce sera l'heure justement de retrouver notre invité, le bon vivant et comédien Manu Payet viendra partager des petits farcis avec nous. Allez, en route les amis. Alors, avec les vacances, vous avez sans doute eu l'occasion de découvrir une région, un terroir. Eh bien, nous aussi, les voyages forment la jeunesse, comme on dit, mais le palais également. Alors, quel a été le goût de vos vacances, le goût de l'été, même si on était là tout l'été? On va commencer par vous, Yves Candebord, votre goût des vacances, de fin de vacances.
Moi, c'est pour un maire de Langouette, en Ille-et-Vilaine, qui a déposé un arrêt préfectoral anti-pesticides. Il sait qu'il est totalement illégal, que c'est totalement refusé.
Oui, la justice a retoqué.
Mais comme d'ailleurs. Il dit, c'est une question de conviction. Et surtout, il a le soutien de toute sa population. Et Laurent, ce qui se passe, il y a l'effet de masse qui est en train de se mettre en place parce qu'aujourd'hui, il y a deux autres maires qui ont fait la même chose.
Donc ça va faire boule de neige.
Ça va faire boule de neige. On a Saint-Éloi de Fourquès et dans le Val-de-Reuil qui ont fait la même chose. J'espère que ça va faire une masse de façon à ce que l'État fléchisse et qu'on préserve nos enfants, qu'on préserve nos campagnes, qu'on préserve notre santé. Je leur dis chapeau et je dis à tous les maires, rejoignez-les.
Oui, c'est ce qu'on attend de la part de nos maires, effectivement, qu'ils puissent agir comme ça sur le local. C'est pour ça qu'on vote aussi pour des maires. Alors, Olivier Pouls, votre goût de la semaine?
Eh bien, le mien est joyeux. Il est liquide, il est rouge.
Oh, bah dites donc, ça m'étonne.
C'est une petite appellation bourguignonne dans laquelle je suis allé traîner un petit peu durant cet été, qui s'appelle Irancy, qui est non loin de Chablis, qui a la particularité de produire du vin rouge à base de pinot noir, comme en Bourgogne, c'est généralement le cas, mais avec aussi une petite pointe parfois de César. C'est un cépage original qu'on trouve là-bas.
Joli nom.
Joli nom, et que, alors qu'il n'est pas cultivé très majoritairement, mais on en trouve des petites traces ci et là, et ça donne à ces vins leur typicité, leur particularité. Moi, j'aime beaucoup ces vins, et il y a deux vignerons que je salue et que je trouve très représentatifs de cette appellation, c'est le domaine Collineau et le domaine Richoux, dans deux styles différents. Ce sont des vins abordables, ce sont des vins friands, et ce sont des vins qu'il faut bien le dire, ces dernières années, avec le réchauffement climatique, c'est le côté un peu cynique peut-être du réchauffement, de la bonne nouvelle qu'on peut avoir. Eh ben, les vins sont très bons là-bas parce que, ben oui, ils n'ont plus le côté rustique qu'ils ont pu avoir dans les années où le raisin n'arrivait pas tout à fait à maturité. Et là, depuis quelques années, on a vraiment des vins magnifiques.
Irancy.
Allez-y.
Irancy.
En plus, le village est tellement beau.
C'est beau. Eh bien, mon goût de la semaine, le voici. Je vous l'ai rapporté dans un petit sachet de mon verger en Lorraine. Je vous le donne par poignée. C'est un fruit de saison. On l'appelle l'orge jaune en Lorraine. C'est l'ami. La Mirabelle. La Mirabelle. Alors, il y en a qui sont un petit peu, vous voyez, plus rouges que d'autres. Hein. Ce n'est pas un gage de maturité. Là, encore une fois, c'est la variété, les petites taches de rousseur. Et le truc pour savoir si la Mirabelle est à maturité, voilà, on l'ouvre en deux. Et quand le noyau se détache comme il faut,
hop,
on retrouve, c'est un parfum unique. Vous êtes d'accord, Yves Candebord? Le Béarnais, vous n'avez pas eu cette chance dans le Béarn d'avoir ça dans votre enfance, de
on
la Mirabelle?
On ne peut pas tout avoir, Laurent. Mais je dois reconnaître que ça fait partie des fruits de saison exceptionnelle. Parce que la saison, elle est très courte. Ça donne envie, on l'attend. Et surtout pour la cuisiner aussi bien en salé qu'en sucré.
Qu'est-ce que vous en faites, intéressant. Vous
Moi, j'adore la cuisiner en salé. Je la poêle. Je dépose dessus une fleur de sel, juste poêlée au beurre, fleur de sel. Et je peux déposer des copeaux de jambon. déglacer avec une pointe de vinaigre.
Ça marche avec aussi le poulet pour faire un petit tagine, par exemple, des tartes à la mirabelle, bien entendu, des beignets à la mirabelle avec une belle pâte à crêpes, vous savez, bien épaisse. Et vous mettez vos mirabelles à l'intérieur et vous déposez ces petits tas de beignets dans une poêle avec de l'huile, comme faisaient nos grands-mères, et du sucre à la sortie.
Un clafoutis à la mirabelle.
Oui, c'est comme le clafoutis, voilà. C'est pareil. Il faut faire, voilà, tous à la mirabelle, c'est vraiment la pleine saison.
Et on la distille aussi, la mirabelle.
Ah, bah oui, oui, on en fait de l'eau de vie, et comment ? C'est la rentrée, alors plus agréable que la course aux fournitures scolaires. Faisons les courses au marché. Alors, quels sont les produits qui vous permettent de prolonger les vacances ? Votre réponse au micro de Julien Amat, tiens, sur le marché Richard Lenoir à Paris, dans le 11e, à la capitale.
Allez, l'abricot, c'est du Roussillon.
J'ai pris des nectarines, des pêches de vigne.
Là, c'est des produits d'été, c'est génial, il y a plein de choix en été, il y a une variété formidable. Les pêches, les prunes qui commencent à arriver, les figues. Mais les figues fraîches, ça c'est génial, c'est vraiment le top. Et puis j'attends la raisin avec impatience.
Il y a encore des tomates, je suis très contente, il y a des melons, des reines Claude.
Le roi de la banane ici, le roi de la banane.
Des tomates cerises, des pêches parce qu'elles sont bien mûres et que c'est la saison. Il y a encore plein de fruits, il y a plus de fruits que de légumes, il y a beaucoup de fruits. Quand on est dans le sud, il y en a à partir de mi-juillet, quoi, mais quand on rentre sur Paris, ouais, c'est plutôt fin août. Quoi.
J'achète du melon et des pêches et des nectarines. Merci. C'est assez agréable parce qu'on est quand même qu'en août finalement. Fin août, mais on est encore en été. Ouais.
Merci bien.
Bonne journée, messieurs, dames. Et comment que nous sommes encore en été ? C'est pas la meilleure saison, Yves Candebord, là, pour faire ses courses. On a encore tous les produits de l'été qui sont là et les produits de la rentrée qui débarquent.
Oui, totalement. C'est vrai que c'est une saison où il y a énormément de fruits et de légumes très intéressants qui sont à maturité. Et c'est vrai que ça nous prolonge aussi, voilà, ce moment unique que sont les vacances.
Et le raisin va arriver et les champignons, Olivier.
Le raisin, alors les champignons, on annonce, paraît-il, une belle année. Oui. Alors il faudrait qu'il pleuve un tout petit peu, mais on annonce cèpes, une belle année. Il devrait y avoir des cèpes. Et là, je peux vous dire qu'en ce qui concerne les cèpes, je suis dans les starting blocks. Mais je guette le premier qui pointe son chapeau et c'est parti.
Et nous aussi, on va en parler des cèpes. Vous pensez bien, quand ils débarqueront, on vous fera de belles fricassées à la table des bons vivants. Allez, ne bougez pas. Nous partons dans le sud à la recherche des figues fraîches et moelleuses du côté de Solliès. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi matin, hein, les amis.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Alors vous le savez, ici nous partageons le goût du bon sens et ça commence par la consommation de produits de saison. Bah tiens, avant d'aller un petit peu plus loin avec nos figues que nous allons aller récolter du côté de Solliès, je vais poser la question à mes camarades Olivier Pouls et Yves Candebord. À quoi ça sert ? C'est vrai que certains auditeurs peuvent se poser la question. À quoi ça sert de cuisiner et de consommer avec les saisons ?
Pour moi, ça sert à trois choses. Déjà, ça permet d'avoir de la diversité en permanence dans nos assiettes. Ça, c'est une chose importante.
Absolument.
Parce qu'au moins, on ne rentre pas dans une routine. Deuxième chose, quand on est en pleine saison de la figue, mais c'est là qu'elle est le meilleur. Voilà, c'est là justement qu'elle a tout l'essence du goût de la figue. Et troisième chose, elle est économique. Parce qu'en pleine saison, il y a une grosse production. Qui dit grosse production, dit coût d'achat moins cher.
Olivier Pouls.
Eh bien, tout simplement, vous savez que la nature, elle répond aux besoins de notre corps. Quand on est en été et qu'on mange du melon,
elle nous hydrate.
C'est de saison, ça nous hydrate. Quand on est en hiver et qu'on mange des pommes de terre ou des racines, on prend des forces. Donc la nature répond finalement aux besoins physiologiques de notre corps. Il n'y a qu'à se servir.
Donc reconnectons-nous vraiment avec les saisons. C'est ce qu'on fait, hein, vous le savez, ici tout au long de l'année, chaque samedi matin sur Europe 1. Et c'est vraiment pour notre bien, pour votre bien, parce qu'on se fait du bien et ça coûte moins cher en plus. Alors la fin de l'été, justement, c'est la bonne saison pour se faire plaisir en cuisine. Parmi les petites merveilles du moment, en voici une qui ne laisse personne indifférent, j'en suis certain, de l'autre côté du poste. C'est la figue. C'est maintenant qu'elle est au top de sa forme. Il y en a toutes les couleurs en plus. Hein. Il y a plein de variétés de figues, Yves Candebord.
Ouais, il y a pratiquement plus de 700 variétés de figues. Mais ce qui est magique avec la figue en tant que cuisinier, c'est qu'on peut la travailler aussi bien en entrée qu'en plat, qu'en dessert. Et il y a une idée reçue qui est assez ridicule de penser que la figue, c'est un fruit qui est riche alors qu'elle n'a pas plus de calories qu'une pomme.
Non, c'est séché qu'elle est riche, effectivement. Elle se concentre en sucre.
On concentre les sucres.
Oui, voilà, voilà. Comme tous les fruits séchés.
Mais en frais, c'est exactement pareil, les mêmes calories qu'une pomme. Après, c'est très bon pour la santé. Il faut savoir la choisir. C'est vrai qu'une figue, elle doit être souple. Plus elle est souple, c'est-à-dire que plus elle est mûre. Et si on l'a bien mûre, il ne faut surtout pas l'éplucher. La peau est très bonne. Si vraiment vous êtes embêté que vous n'aimez pas la peau, on peut l'éplucher avec un couteau un couteau, mais c'est, je pense que c'est ridicule.
Il y a 700 variétés de figues à travers le monde à peu près. Hein. On les classe en trois grandes catégories, Olivier Pouls.
Oui, alors la couleur en fait, hein, vous avez la noire ou rouge, vous avez la blanche ou jaune qui a un goût un tout petit peu plus subtil, un petit peu plus délicat,
oui,
et
la
puis la grise aussi. Qu'on voit un peu moins sur les marchés, mais qui est délicieuse elle aussi.
Ce qui est amusant avec la figue, c'est quand on s'amuse à plonger dans des écrits anciens, eh bien on se rend compte d'une chose, les amis, c'est que le fruit défendu, c'est pas la pomme, c'est elle, c'est la figue. Et c'est vrai qu'on comprend, parce qu'elle est douce, elle est sensuelle, elle a une belle robe, et quand on ouvre cette belle robe, il y a une chair comme ça qui est croquante, qui est juteuse. Je trouve qu'elle est beaucoup plus dans le péché que la
sensuelle,
pomme.
Elle est sensuelle, elle est très sensuelle. Ouais,
c'est un petit sein, c'est une petite bourse végétale, c'est un téton.
Le toucher de la peau de la figue,
c'est sublime.
C'est la peau de l'être humain. Hein.
Mais je suis convaincu que c'est le fruit défendu et que c'est pas la pomme.
Moi,
je me défends pas d'en manger.
Alors on va justement aller les récolter.
Je serai damné.
On va aller les récolter maintenant. Nous partons dans le Midi. Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1, nous emmène cueillir la figue à Solliès-Pont, une commune d'environ de 12 000 habitants à côté de Toulon, et rencontre avec Patrick Blancon, qui est producteur de figues à l'ombre des figuiers, pour nous parler de cette belle figue de Solliès qui bénéficie, c'est la seule, de l'appellation d'origine protégée.
Donc le figuier, comme vous pouvez le voir, pratiquement à chaque feuille un fruit.
Hop là, voilà, elle se détache facilement.
La figue de Solliès-Pont, l'appellation AOP, on la trouve sur un nombre de communes autour de Solliès-Pont, jusqu'à hier, sur le Pradet, la Garde, Belgencier pour le Nord. On est dans la vallée du Gapou, c'est un cours d'eau, un petit cours d'eau qui arrive sur hier. Ce microclimat qui règne sur cette région permet d'avoir une figue particulière. Bah, cette figue, elle est violette. Elle a une chair rouge, très agréable au palais. Mûre, sa peau est un petit peu craquelée. Le fruit est actuellement plein de sucre. Il n'a pas plu depuis très longtemps sur le bassin du Gapot, la bassin Solliès-Pont. Le fruit pour l'instant est gros, mais le fruit d'ici 15 jours, 3 semaines, s'il ne pleut pas, il va arrêter de grossir. On a cueilli les premiers fruits vers le 15 août. C'est en avance et ce microclimat permet d'avoir une récolte à peu près sur entre 2 mois et demi, 3 mois.
Eh bien, elle est belle la récolte, hein, Patrick Blancon. Merci beaucoup. On les a, ces magnifiques figues de Solliès que Frédéric Michel nous a rapportées. Elles sont sublimes, franchement,
elles sont
à maturité.
Elles sont moelleuses, elles ont du goût.
Ouais, ça a du sucre, ça a de longueur de bouche, c'est très très agréable.
C'est vrai qu'il y a une belle longueur en bouche, vous avez raison.
Et ce qui est très important dans la gastronomie, cette longueur de bouche, c'est toujours ce plaisir.
Et oui, on profite.
Qui profite, s'étale en soi.
Et si vous êtes dans le coin, eh bien allez fêter la figue de Solliès. Et ce week-end, ce samedi, justement, la fête a eu lieu une semaine plus tard que d'habitude, là, à Solliès-Pont, dans le Var. Comment la cuisine, la figue? Alors, on peut la cuisiner à toutes les sauces, on le disait, en version salée, en version sucrée. Un petit carpaccio, tiens, de bœuf avec des champignons de Paris et quelques figues, ça marche, ça?
Ça marche très très bien, ça va amener une petite rondeur avec l'échelle croquante de champignons, c'est très agréable. Alors moi, ce que j'aime, Laurent, c'est travailler la feuille de figuier. C'est vrai qu'il y a la figue, mais la feuille de figuier peut être justement support très
intéressant. Encore faut-il avoir un figuier sous la main. Mais
ou alors de demander à son maraîcher de vous amener des feuilles. Ça, je pense qu'on les trouve assez facilement.
Oui, en ce moment,
mais
oui.
Le rentrée, c'est parce qu'en plus, ce qui est intéressant aussi avec la figue, on est en train de la consommer aujourd'hui à la fin de l'été, mais c'est un fruit qui va durer pratiquement jusqu'aux premières gelées. Donc on l'a au début de l'automne. Et au début de l'automne, qu'est-ce qu'il y a? Les cèpes.
Et
la
oui.
figue et cèpes, ça marche. On prend une poêle.
Mariage sublime.
On tapisse la poêle de feuilles de figuier. On dépose figue et cèpes. On referme l'ensemble après avoir légèrement assaisonné et une pointe d'huile d'olive. On passe au four. Ça va étuver dans les feuilles de figuier et vous allez avoir une petite poêlée de cèpes et de figue qui va se mélanger avec ce parfum de feuilles de figuier. C'est subtil. Et c'est très agréable.
Oh, c'est bien ça. Oui, et puis voilà, c'est deux produits tout simplement. Encore une fois, quand les produits naissent au même moment dans la nature, ils ont des choses à se raconter dans l'assiette.
Toujours,
quoi.
C'est les plus belles associations. Quand on cherche l'association, c'est des associations de produits de saison. Et après, il y a aussi quand même la confiture.
Ah bah, confiture.
Parce que c'est vrai que si vous avez la chance d'avoir un figuier dans votre jardin,
ça donne. Hein.
Ça produit.
Ça y va. Voilà. Alors, je vous ai fait une tarte aux figues, justement, avec les figues de Patrick Blancon, des belles figues de Solliès. Une tarte aux figues façon Bourdalou, parce que sur certaines régions, ce week-end, ça se rafraîchit un petit peu. Donc, j'ai eu envie de mettre de la générosité. Une pâte brisée, un appareil Bourdalou, comme on dit, c'est tout simple, avec du beurre, un petit peu de sucre et de la poudre d'amande. Hein, c'est ce qui donne l'appellation Bourdalou.
Il y a un joli sucre de sucre.
Alors oui, alors justement, j'en ai marre.
Sucre roux ?
Ouais, non, même pas le sucre roux. J'en ai marre des sucres raffinés, des sucres blancs qui, on le sait, nous
vous ont avez raison.
Un indice glycémique absolument délirant. Donc j'ai pris ce qu'on appelle du rapadura, qui est un résidu de sucre. C'est le sucre brut, hein, c'est le résidu du sucre de canne et qui n'est pas raffiné du tout et qui a même un petit goût de réglisse.
Totalement.
Ça donne quoi pour
ça
vous,
donne du goût en fait.
Hein, ça donne
voilà,
du goût.
Le sucre blanc est neutre.
Il s'accorde pas avec tout, hein, le rapadura.
Là, avec la figue, ça s'accorde, ça amène une âme supplémentaire au dessert. Et en plus, étant donné que ce croustillant, voilà, c'est le croustillant qui se dépose dessus, qui est très agréable et qui amène une texture supplémentaire.
J'ai fait ça juste avant l'émission, ça prend pas beaucoup de temps. Vous retrouverez évidemment la recette sur europe1.fr.
Et Olivier alors, un verre de vin doux naturel.
Alors justement,
avec
qu'est-ce qu'on
ça,
boit
ben on va boire un grand vin doux naturel qui a un petit peu d'âge, notamment une mise tardive, par exemple, de Maury ou de Banyuls. Et vous allez retrouver dans ce vin ces arômes de figues. Et là, il y a un mariage magnifique.
Oh, c'est beau ça, on aime quand tout le monde se retrouve justement dans les accords mets vins. Et puis bravo à Sylvie, une auditrice de la table des bons vivants, et sa belle tarte aux figues qu'elle a publiée sur le groupe Facebook des bons vivants sur la page Europe 1. Figues et mûres sur un lit de crème pâtissière. Elle est magnifique, la tarte de Sylvie. Voilà. C'est bientôt l'heure du journal de la cuisine avec Marion Sauveur. Quoi de neuf du champ aux assiettes? Ne bougez pas, la réponse juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. Vous le savez, tous les samedis, nous vous servons des nouvelles fraîches de la planète cuisine. Marion Sauveur est sur le pont pour cette rentrée, vous pensez bien. Eh bien, la voici avec un journal tout chaud. Bonjour Marion.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
L'été était bon?
Oh oui, très bon.
On vous a retrouvé tous les week-ends en fin de journée avec vos belles idées régionales. Eh bien, on va continuer à parcourir les régions pour ce journal de la cuisine. C'est parti. Du soja, des moules et un repas chez l'habitant. C'est le menu de votre journal, Marion. Alors, on commence avec le sommet du G7, dernièrement, où Emmanuel Macron a pointé du doigt les importations de soja.
Importations qui viennent en partie du Brésil, où depuis juillet, l'Amazonie brûle pour être transformée, notamment en zone de culture de soja. La France, comme l'Europe, cultive très peu de soja et en apporte principalement pour nourrir notre bétail. Et oui, c'est l'un des principaux apports protéiniques de nos animaux d'élevage. Et le chef de l'État, Emmanuel Macron, veut que ça cesse.
On doit recréer ce qu'on appelle la souveraineté protéinique de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe, elle doit être capable de reproduire ses propres protéines pour elle-même, pour consommer, comme pour les éleveurs.
Elle m'a marqué, moi, cette phrase, effectivement. Eh bien, on en parlera, figurez-vous, la semaine prochaine, ici, à la table des bons vivants, parce que nous recevrons à notre table le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, sera avec nous pendant un long moment dans cette émission. Et la récolte de blé est exceptionnelle cette année, Marion.
Plus de 39 millions de tonnes. La production est en hausse de près de 15% sur un an. C'est la deuxième meilleure moisson de blé depuis 21 ans et la qualité est tout aussi excellente. Alors, dans quelques instants, Laurent, vous recevrez le cultivateur Jean-Pierre Bolognini et vous nous direz tout sur les différentes farines de blé.
Absolument, il est incollable, vous allez voir. Moules, frites, c'est le plat incontournable de ce week-end à Lille.
Et oui, impossible de passer à côté à la braderie de Lille. 500 tonnes de moules, 30 tonnes de frites devraient être englouties jusqu'à demain soir. Des contrôles sanitaires ont eu lieu en amont pour éviter les intoxications et un tiers des restaurateurs ont été sommés de prendre des mesures.
Eh ben non, ça marque Olivier Poulx.
Mais j'achète moules frites, j'achète.
Chaque semaine, désormais, vous allez nous présenter dans le journal de la cuisine, Marion, une application, une exposition, un nouveau concept que vous avez repéré. C'est votre cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Et cette semaine, c'est un site.
Et oui, je l'ai découvert cet été. Mama's Social Food, c'est son nom. C'est la première plateforme mondiale de repas chez l'habitant et elle est française. Le
Cocorico.
Site, donc www.mamassocialfood.com, est donc disponible dans plus de 70 pays. Il y a de quoi découvrir en matière de cuisine locale. Et je vous propose, Laurent, si vous passez à Lyon la semaine prochaine, de vous arrêter, pourquoi pas, chez Christophe pour un dîner 100% lyonnais.
Chiche.
Avec au menu à l'essai. Cervelle de canut, il faut goûter.
La vraie, bah oui, bah on adore, oui. Bien sûr.
Et mieux encore, si vous allez à Rome le week-end prochain, un rapprochez-vous de Liliana, elle propose un cours de cuisine de pâtes avec dégustation.
C'est cher, ça coûte combien cette
histoire-là? En moyenne, il faut compter une trentaine d'euros pour un menu complet, entrée, plat, dessert et vin pour Olivine.
Eh ben, merci,
bien.
Comme au restaurant, quoi, en gros, pratiquement. Merci beaucoup, Marion. Alors, chers amis auditeurs, vous avez certainement passé un peu de temps derrière une moissonneuse sur les routes cet été. Mais ça y est, les moissons viennent de se terminer en France. Le blé, c'est la moitié de nos cultures céréalières. On vient de le dire, une culture exceptionnelle avec une très belle récolte cette année. Le pain, les pâtes, du blé transformé, nous en mangeons à toutes les sauces. Mais finalement, on ne collait pas bien. Entre les hybrides, les blés de pays bio ou pas, il y a tant à dire. Voilà pourquoi nous avons invité Jean-Pierre Bolognini, cultivateur, collectionneur de blé de toutes origines et membre actif du réseau Semences Paysannes. Bonjour Jean-Pierre Bolognini.
Bonjour.
Merci d'être venu à la table des bons vivants. Vous arrivez tout juste de Corse pour nous?
Oui, je suis venu spécialement de Corse pour parler de blé avec vous.
Et vous avez sorti un très beau livre qui s'appelle Blé de pays et autres céréales à paille, paru chez Ulmer. C'est un livre savant. Vraiment, on peut planter son blé après avoir lu ce livre.
En fait, ce livre est fait pour donner envie de semer du blé, même au jardin. Et je voudrais dire quand même que je l'ai écrit en collaboration avec Ruth Stegassi, donc ma compagne.
Très belle collaboration, absolument. Alors, je viens de le dire, Jean-Pierre, les moissons de l'été sont terminées. Qu'est-ce qui vient d'être récolté? Expliquez-nous. Qu'est-ce que le blé qu'on voit partout, le bien droit, bien jaune, toujours à la même hauteur, c'est ce qu'on appelle les blés modernes, c'est ça?
C'est ce qu'on appelle les blés modernes. Quand vous dites on est très heureux de la qualité de la récolte de blé. Je pense que les professionnels sont très heureux de la qualité technologique parce que les blés modernes ont été sélectionnés, ont été créés à seule fin de répondre à des critères technologiques, donc de répondre à des modes de transformation industrielle.
De rendement et puis de pouvoir supporter certains engrais aussi pour pouvoir donner plus, par exemple.
De pouvoir supporter un maximum d'engrais, des pesticides, des fongicides et surtout de pouvoir supporter des transformations boulangères faites avec des machines.
Donc on va le dire tout de suite, c'est pas votre truc.
Pour moi, c'est un élément totalement indigeste.
Votre truc, c'est le blé ancien. Alors, vous allez nous aider, tiens, à nous y retrouver parce qu'on parle beaucoup de blé de population, de blé de pays. Qu'est-ce que sont les blés anciens?
Déjà, une précision, c'est que quand on parle de la récolte exceptionnelle de blé, on parle de blé tendre. Le blé tendre, c'est une espèce, c'est une plante, une espèce de blé parmi des dizaines d'autres espèces de blé.
C'est le blé qui nous permet de faire de la farine pour le pain.
C'est le blé qui est le plus adapté à faire du pain levé à la française.
Et alors, il y a le blé dur également qui nous permet de faire des pâtes. Ça, c'est encore une autre production.
Le blé dur, c'est une autre espèce végétale, effectivement, qui sert surtout à faire de la semoule, donc des pâtes alimentaires italiennes, du couscous et aussi des pains, mais des pains comme le pain matelot au Maghreb, de ce genre de choses.
Dans votre livre, vous militez pour qu'on fasse un retour en fait au blé de population, au blé ancien, au blé de pays. C'est à la portée de tout le monde de se mettre à cultiver ce genre de blé?
C'est à la portée de tout le monde. Je milite donc pour la culture de ces blés de pays, de ces blés anciens, de ces autres espèces que le blé tendre, pour surtout plusieurs intérêts. Un intérêt écologique, parce que ces blés ne peuvent être cultivés qu'avec des méthodes agroécologiques. Ils ne supportent absolument pas les surdoses d'engrais. Ils se couchent à terre, ils sont irrécoltables. Et puis pour des raisons alimentaires, parce que ce sont des blés dont les gluten n'ont pas été sélectionnés pour être aussi tenaces et élastiques et indigestes. Alors, le gluten, juste si vous voulez...
Parlons-en, vous avez raison, oui, absolument, parce qu'on se rend compte que les hybrides aussi ont permis, enfin, malheureusement, à certaines personnes d'être intolérantes au gluten aussi. Hein. Il y a une recrudescence des intolérances au gluten depuis ces transformations.
Ça se développe et c'est dû vraiment à la sélection des blés modernes. Le gluten, c'est très simple. Quand vous mâchez une petite poignée de grains de blé, vous faites un chewing-gum. Et ce chewing-gum, c'est ça le gluten. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est donc la partie qui n'est pas soluble.
Oui, il en faut dans le pain pour donner cette élasticité.
C'est ce qui confère les caractéristiques technologiques donc au pain qui permet de faire du pain levé et de retenir les bulles d'air à la cuisson.
Qu'est-ce que ça représente en termes de production, ces blés anciens, ces blés de population? C'est marginal, non?
C'est une goutte d'eau dans l'océan.
Et alors pourquoi on ne peut pas en faire plus? C'est quoi? C'est une volonté politique? Pourquoi on n'arrive pas à faire plus de blés anciens s'ils sont meilleurs pour la santé?
Ça demande vraiment de reconsidérer l'agriculture, l'agronomie et les méthodes culturelles.
Et bien on va continuer à en parler justement. Le blanc à épi rouge, le barbu du Mâconnais, le Changeli, le Marquis, les blés anciens au tout bon, ils ont même de jolis noms. On en parle avec Jean-Pierre Bolognini et nous allons vous aider à choisir les bonnes farines pour bien cuisiner. A tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dans les pâtes, le pain, les crêpes et autres pizzas, nous sommes nombreux à être dépendants du blé. À l'heure du manger local, on s'intéresse au blé de pays ce matin, au blé de nos régions. Et nous allons vous aider à bien choisir entre les différentes farines. Et puis les autres alternatives au blé, il n'y a pas que le blé dans la vie, Jean-Pierre Bolognini.
Heureusement, il n'y a pas que le blé dans la vie. Il y a beaucoup d'autres céréales notamment.
Alors, vous avez écrit, je le rappelle, un beau livre qui s'appelle « Blé de pays et autres céréales à paille ». Un livre coécrit avec Ruth Stegassi. L'histoire, le portrait et des conseils de culture à l'usage des jardiniers et petits cultivateurs. Si on a un potager, on peut faire pousser son propre blé. En fait, c'est ce que vous dites dans le livre.
Hein. C'est ce qu'on essaye. On essaye d'inciter les jardiniers, les maraîchers à le faire. À titre d'exemple, cette année, un ami maraîcher a cultivé, multiplié sur 300 mètres carrés de terre. Il a récolté 82 kilos de grains.
C'est beau, ça.
De blé de pays.
On voit de plus en plus autour de nous des farines complètes, semi-complètes, des farines blanches, biologiques ou pas. Elles peuvent servir à faire différentes choses en pâtisserie et en cuisine. Ça vient d'où ces farines-là? Ce sont des hybrides, des blés modernes ou ce sont des blés anciens?
Ces farines, dans le commerce, en règle générale, sont des farines donc de blé moderne, hein, qu'elles soient bio ou pas d'ailleurs, parce que les variétés de blé cultivées en bio, en grande majorité, sont des blés modernes.
Alors quand on achète du pain bio chez son boulanger, vous êtes d'accord ou vous préférez qu'on achète un pain de blés anciens, pas forcément bio?
Les blés anciens, en général, sont cultivés en bio, dans la mesure où, de toute façon, ils ont une capacité de végétation qui les prémunit de l'envahissement des mauvaises herbes. Donc, il n'y a pas nécessité d'utiliser des produits de synthèse pour les cultiver.
La nature était bien faite. Yves Candebord.
Oui, après, moi, je pense qu'il y a une chose importante, c'est que quand on travaille avec ces farines-là, que des farines anciennes avec des blés anciens, c'est le goût. Voilà. Moi, je pense que la farine, après, elle est assez neutre en goût. La farine traditionnelle qu'on peut aujourd'hui trouver dans n'importe quelle boutique, quand on fait une pâte à crêpes avec cette farine-là, ben, c'est assez insipide. On est obligé de rajouter des grands marnières, on est obligé de rajouter des citrons. Tandis que quand on le fait avec une farine qui a de la mâche, qui a du goût, instantanément, ça change la donne. C'est toujours pareil, Laurent. Le choix des matières premières pour avoir de la qualité est indispensable.
On trouve une rusticité dans le goût. Hein.
Totalement. Après, c'est vrai qu'il faut modifier aussi les recettes. Parce qu'étant donné que c'est des farines, vous me le dites si je me trompe, où le gluten quand même est moins liant, il faut arriver à modifier un peu les recettes pour arriver à avoir des textures plus légères.
Quand on parle de froment, on parle de blé tendre tout simplement aussi. Hein. C'est ça la connexion.
Exactement. Le froment, c'est le nom ancien du blé tendre.
Alors on le disait, il n'y a pas que le blé dans la vie, il y a également de l'avoine, du seigle, de l'orge, de l'épeautre. On en parle et on s'amusait justement à cuisiner quelques céréales qu'on peut trouver facilement dans le commerce, en bio de préférence. Parce que c'est vrai qu'il faut expliquer que ces céréales, c'est mieux de les acheter bio. Comme vous le dites, elles sont cultivées naturellement pour les blés anciens en bio parce que les pesticides se collent quand même autour du grain en général. Hein.
De toute façon, il y a quand même toujours intérêt, quand on le peut, donc de se nourrir en bio parce que effectivement, au minimum, on évite de s'intoxiquer avec les produits de synthèse cultivés en agriculture conventionnelle.
Alors, après, on a du millet, qui est une céréale très cultivée encore en Afrique, hein, très consommée.
Alors, le millet était très, très cultivé en Europe. C'est une céréale qui a disparu des cultures parce qu'elle était difficilement mécanisable à l'époque. Mais le millet, par contre, ce n'est pas une céréale à paille.
D'accord, donc oui, on ne fera pas de paille avec.
Moi, je trouve que c'est aussi très intéressant. Quand moi, je prends, là, j'ai un bol devant moi de petites épeautres. C'est justement le travailler comme si on travaillait du riz. Pour donner des exemples un peu concrets.
Oui, un risotto de petites épeautres, par exemple.
Vous faites un risotto de petites épeautres. Je vous promets, ça donne un goût totalement différent, parce que c'est des petites épeautres. Et c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'on a une saveur, voilà, une saveur un peu de foin, de paille qui apparaît.
Puis il y a de la mâche, comme vous dites.
Il y a de la mâche, et c'est remarquable. Mais après, on peut très bien aussi l'utiliser dans un bouillon. Cuit dans un bouillon, on peut en faire exactement comme une salade de riz, comme une salade de
pâte.
Comme un risotto. Il faut vraiment se l'approprier et le travailler de façon assez simple sur la base. On arrive à avoir des résultats qui sont très intéressants. Et gustativement, c'est pointu.
Et le camut, on voit de plus en plus cette appellation un peu partout. Jean-Pierre Bolognini, c'est quoi le blé camut?
Le camut, c'est une marque. Ce n'est pas un blé, c'est une marque. C'est une marque commerciale. Donc, d'un blé qui est un blé du Khorasan, d'une espèce de blé, le blé du Khorasan, qui pousse aux confins de l'Iran, de l'Irak. C'est un blé absolument magnifique, d'une très, très grande qualité alimentaire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si vous pouvez le trouver sous le nom de blé du Khorasan, puisque Camut, c'est une marque protégée.
Les blés anciens, les blés de population, c'est assez compliqué de les trouver, Jean-Pierre Bolognini. À travers votre réseau Semences Paysannes, on peut se les procurer tout de même?
Alors, on peut se les procurer, chercher certains producteurs. En général, au réseau Semences Paysannes, donc les cultivateurs de blé de pays, de blé ancien, le transforment et sont paysans boulangers. C'est-à-dire qu'ils transforment leur récolte donc en pain qu'ils vendent et ça leur permet de garder la plus-value pour eux.
Parce et une belle traçabilité, là.
Et une très belle traçabilité.
Olivier Pouls, qu'est-ce que ça vous inspire en accord mes vins, ces céréales, justement, comme le blé, le petit épeautre, le millet ou le camut?
C'est pas facile, parce que ça n'évoque rien, finalement, dans l'univers du vin. Et j'ai presque envie de glisser vers la bière, puisqu'on a dans la bière, souvent, ces goûts de céréales. Et je pense qu'on a des accords beaucoup plus intéressants à réaliser sur la bière, là, pour le coup, que sur le vin.
Ben oui, parce que le malt utilisé univers, dans la bière, c'est de l'orge, hein, justement. Qu'on a fait chauffer.
C'est de l'orge chez nous, en général. Mais dans d'autres pays, c'est du blé, c'est du seigle aussi. On fait des bières avec d'autres céréales. Mais en général, c'est de l'orge, oui.
On continue à moissonner à la table des bons vivants avant de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. On va parler de l'importance de préserver, justement, nos semences paysannes. A tout de suite, après ça, sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
De l'épi à la farine, on passe le blé et les autres céréales à la batteuse pour se faire du bien en préservant la biodiversité de nos régions. C'est pas incompatible, Jean-Pierre Bolognini, justement, de se faire du bien et de préserver la biodiversité de nos régions.
Ah ben c'est totalement lié, C'est totalement lié. On peut se faire du bien qu'avec de bons produits
D'à côté de chez soi, on pourrait dire.
À côté de chez soi, c'est mieux. Mais bon, moi, j'ai rien contre la cuisine du monde aussi.
L'origine du blé, c'est la semence. Et de plus en plus de cultivateurs se battent pour préserver une diversité, comme le réseau Semences Paysannes dont vous faites partie. Vous avez retrouvé d'ailleurs un blé corse aux États-Unis.
C'est grâce à l'existence du réseau Semences Paysannes qu'on a réussi à retrouver ce blé. Parce que sur le forum donc, du réseau, j'avais demandé si quelqu'un avait entendu parler de blé de pays de Corse. J'ai écumé toutes les banques de données donc, des instituts de conservation européens, même de Russie, et rien. Et puis un jour, lors d'une rencontre du réseau Semences Paysannes, un ami, Christian Dalmasso, me dit « Ah, j'ai vu ton mail, là, je ne t'ai pas répondu, mais il me semble que sur la banque de données américaine, du ministère de l'Agriculture américain, j'ai vu des blés corses. Effectivement, j'ai trouvé deux blés de Chine avec l'indication Corse. On a commandé ces deux blés. Il y avait les indications géographiques, les coordonnées du lieu où ça avait été prélevé en 1921.
Alors c'était où ?
Alors c'était sur la commune de Canary, dans le hameau de Kine.
C'est loin de la Chine, en Corse
oui,
alors.
Exactement, Kine, on dit Kine.
Eh oui, Kine, Chine,
c'est Kine.
Ah, c'est amusant,
voilà.
Ça.
Et donc, voilà.
Et vous nous l'avez apporté ?
Oui, ils sont là.
Et demain, c'est le grand jour à Aléria, en Corse, pour les blés de Chine, Jean-Pierre ?
Alors, c'est le grand jour à l'église d'Aléria, donc dont le saint patron est Saint Marcel. Saint Marcel, c'est le protecteur des semences. Nous allons remettre donc 3 kilos de chaque variété des deux blés de Kine à la confrérie donc de la Serra, qui va être en charge de le distribuer et de le multiplier pour relancer la culture de ce blé de pays en Corse.
Donc on va pouvoir retrouver ce blé et on va en faire quoi ? On va faire de la farine pour faire du pain, par exemple ?
Alors ça, c'est vraiment c'est du blé tendre, c'est du froment. Ce sont deux froments qui sont tout à fait adaptés à faire du pain.
Ce n'est pas la multiplication des pains, c'est la multiplication des blés là-bas.
Qui ne sont pas modifiés.
Ils ne sont pas modifiés. Ils ont été donnés en 1921 par M. Versin, donc au ministère de l'Agriculture américain.
Là, j'ai par exemple des blés que vous avez apportés. Alors là, c'est du seigle d'Autriche, un bel épi, du rouge, des charmilles, c'est ça hein. Il y en a qui est tout noir là, qu'est-ce que c'est que c'est un seigle, c'est quoi ça? Non, un éménoir, c'est quoi ça?
C'est de l'amidonier, Emmer c'est le nom allemand, c'est de l'amidonier. Alors l'amidonier c'est très important, c'est comme le petit épeautre, ce sont les deux seuls blés qui ont des ancêtres sauvages. C'est à partir d'eux que sont des toutes les autres espèces. Et l'amidonier était le grain qui servait à alimenter Rome, la Rome antique.
Et j'ai le blé du miracle là. Qu'est-ce que c'est que ce blé ? Il se multiplie plus que les autres ?
Alors c'est encore une autre espèce, oui, c'est encore une autre espèce qui a disparu.
Ah, il est velu celui-là. Hein.
Il est barbu, velu, rameux.
Et on en fait quoi ?
Avec les poulards, jusqu'à la moitié du XXe siècle, en Auvergne, on faisait des pâtes qui étaient très très réputées, d'une qualité très réputée. Et les poulards ont disparu parce qu'ils ont été supplantés par les blés d'Afrique du Nord, donc d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, des anciennes colonies, des blés durs qui les ont remplacés dans la fabrication des pâtes.
Le poulard qui n'est pas le mari de la poularde, rien à voir. Hein.
Ce n'est pas le mari de la poularde.
Ce n'est pas la même famille.
Mais c'est le gros du blé.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Bolognini d'être venu nous éclairer justement sur les blés et autres céréales à paille. On peut aussi saluer le travail de la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, de Yann Herlouchette par exemple dans le Pays Basque, Roland Feuillasse aussi dans le Midi. D'autres cultivateurs se battent en plantant dans le cadre ou non de semences paysannes. Merci beaucoup et je rappelle votre livre Jean-Pierre Bolognini, blé de pays et autres céréales à paille.
Aux éditions Ulmer.
Bravo, merci Jean-Pierre.
Merci beaucoup.
Bon retour en Corse.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bientôt midi moins le quart, les amis. Alors pendant que nous préparons le déjeuner de ce samedi, Jean-Luc Petit-Renaud est toujours en vacances. Il n'arrive pas à quitter son armoire à confiture et ses autres souvenirs de vacances. Alors on le salue depuis la rue des Cévennes. Il nous a d'ailleurs envoyé une petite carte postale sonore.
Cher bon vivant, je vous écris cette carte postale parce que j'avais envie de jouer les prolongations, comme on dit en termes sportifs. Écoutez, vous entendez les cigales, vous avez les bruits de fontaines. Je suis donc sur la place de ce petit village. J'ai un verre d'anis à portée de la main, bien sûr. Et je vais attaquer un bel aioli. Mais le bel aioli, vous savez, celui qui vous laisse un souvenir inoubliable en bouche. Alors je suis à l'ombre, je suis sous l'arbre à saucissons, près de moi il y a la haie à rillettes que je viens tailler régulièrement. Je suis un homme heureux, j'avais pas envie de me mettre à l'ombre de la tour Eiffel en ce samedi. Alors c'est pour ça que je profite un petit peu. Et figurez-vous, j'ai vraiment profité cet été. Je suis allé du côté de Saint-Félix-Lauragais aussi manger, figurez-vous, un cassoulet. Parce que qui a dit qu'il fallait manger que des salades César lorsqu'il fait chaud? Moi, non, j'ai mangé un cassoulet avec la petite goutte de sueur sur le front par 75 degrés à l'ombre. J'étais un homme heureux. Bon, mais je vous promets, la semaine prochaine, tout rentre dans l'ordre et je serai apparemment avec vous. Enfin, quand je dis tout rentre dans l'ordre, on verra.
Eh oui, il y a la fontaine juste à côté, hein, Jean-Luc. Les pieds dans la fontaine pour se rafraîchir. On peut mettre les pieds dans la fontaine après un cassoulet, tu me diras, ça réchauffe.
Oui,
hein.
Ça réchauffe aussi. Pas que les pieds, on y va en entier.
Oui, en entier. Alors à propos du cassoulet, tiens, il vient de faire la préface, Jean-Luc, d'un livre sur le cassoulet de Claude Taffarello qui va sortir le 5 septembre aux éditions La Maison. Et puis on retrouve évidemment Jean-Luc tous les samedis à la table des bons vivants. Il a son rond de serviette pour pousser ses coups de cœur et ses coups de gueule. C'est bientôt l'heure, les amis, d'accueillir notre invité. Après avoir débuté à la radio, c'est un homme de scène et de cinéma. Manu Payet sera des nôtres. Ce sera juste après Yannick Noah qui chante « Viens ». Et nous, après, on revient. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez. La table des bons vivants dresse le couvert tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1. Recettes, bonnes adresses, nouveautés. Nous sommes là pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors il a commencé à la radio sur son île natale de La Réunion avant de débarquer en métropole. Comme un poisson dans l'eau derrière le micro, on le retrouve rapidement sur scène avant de passer devant et derrière la caméra au cinéma. De tout ce qui brille à situation amoureuse, c'est compliqué. Il a tout pour être heureux. Manu de son prénom, Emmanuel pour les intimes. Il se dévoile actuellement dans son dernier one-man show. Manu Payet est notre invité. Bonjour Manu Payet.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour,
bonjour à tous.
On est ravis de vous recevoir parce qu'on sait que vous êtes un fin gourmet et un gourmand en plus.
Un fin gourmet, un gros gourmand.
Alors que votre vrai nom, paraît-il, c'est le roi du rougail saucisse, c'est
ouais.
ça Une spécialité de La Réunion.
Mais c'est bon, c'est très bon.
Ah bah c'est magnifique.
Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'en ai réussi un, le dernier que j'ai réussi en Grèce.
Ah oui,
un rougail saucisse en Grèce,
c'est
oui,
la cuisine
avec
fusion.
Avec les grecs, oui, cuisine fusion. Et puis alors, ils sont 15, ils m'ont suivi dans l'avion, ils sont venus s'installer ici à côté de moi.
Votre nom actuel, c'est Emmanuel, hein, donc titre de votre dernier spectacle que vous jouez à l'Olympia les 21 et 22 septembre, en tournée dans toute la France aussi. Ouais. Rien que la photo de l'affiche, elle donne envie d'aller vous voir sur scène parce qu'il fallait y penser. Elle est géniale cette affiche. On vous voit dans ce mythique fauteuil en rotin, en osier, comme la belle Emmanuel.
Ouais.
Voilà. On va l'entendre. Chaque fois qu'on dira Emmanuel, on l'entendra Pierre Bachelet.
Bah,
c'est comme ça.
Oui, c'est une idée que j'avais eue pour mon premier spectacle et puis j'ai pas osé le faire parce que c'était mon premier que je venais d'arriver. J'étais pas sûr et puis. Voilà, là, pour le deuxième, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on se lance. Et on a fait ça avec mon copain Joachim Ronsin. J'ai entendu un son très, très, très sympathique.
Très agréable.
Il faut rester concentré. Un vin corse
ouvert par Olivier Pouls que nous allons déguster dans un instant parce que les deux minutes du vin approchent. Mais avant, Manu Payet, je voudrais connaître votre goût de la semaine, votre goût des vacances.
Ah bah, mon goût des vacances, je ne sais pas s'il faut le dire parce que je ne sais plus si je peux le prononcer tellement j'en ai bouffé, c'est feta.
Ah, mais ça va, c'est deux syllabes.
Oui, deux syllabes, mais enfin, à l'intérieur.
Avec un peu de sel,
c'est un peu plus lourd. Ouais, c'est
vous n'êtes pas parti à La Réunion en vacances, visiblement.
Non.
On l'a
je
vu.
Je suis
hein.
allé là où il fait beau en août. Je suis allé en Grèce et c'était formidable. Mais alors, qu'est-ce que j'ai bouffé comme feta?
Salade grecque.
Ah, bah, salade grecque, c'est le prénom.
Spanakopita.
Spanakopita, souvlaki. J'allais dire teppanyaki. Non, c'est pas le même continent. Les olives, la totale. Et alors, parfois c'est bon et parfois c'est moins bon. Surtout la feta. Ça fait un bruit parfois. Quand elle est pas bonne, ça fait un bruit de plastoc sur les dents.
Oui,
t'as envie de
pas.
T'en faire des tongs. Mais ça, c'est quand elle est pas bonne. Quand elle est bonne.
Lait de brebis, la vraie feta. Hein,
tout à fait.
Lait de brebis. Hein.
Tout à fait. Après, je sais pas avec quel lait était faite celle que je n'ai pas aimée, mais je vous garantis que c'était pas un animal.
Et alors là, on a quelque chose justement pour célébrer votre goût de la semaine. C'est une feta, c'est très light, hein, qui est frite, tout simplement. Ah. Voilà, donc c'est du fromage
c'est
frit.
Le fameux saganaki.
C'est ça, c'est exactement. C'est ce que vous avez dégusté là-bas aussi en Grèce pendant vos vacances, parce qu'on vous a vu sur Instagram mettre de belles photos de vos vacances. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on rentre de vacances, on n'a même plus besoin de raconter ses vacances. On a vu tout sur Instagram.
Dingue. Hein, les gens te disent plus alors où t'étais. T'étais où alors? On te dit plus ça, on te dit alors la Grèce.
C'est ça. Alors le spanakopita, alors la feta.
Ouais, exactement.
Alors de la Grèce au yaourt, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec Yves Candebord, puisque le fait maison fait partie des bonnes résolutions de la rentrée. Yves, vous allez nous convertir au yaourt maison parce que vous avez rapporté dans vos bagages une belle yaourtière.
Oui, j'ai fait un test de yaourtière parce que ça m'intriguait. C'est vrai que on a tendance à acheter des yaourts industriels, souvent de mauvaise qualité. Donc, je me suis intéressé là-dessus et j'ai trouvé une marque française. Alors, c'est tant mieux parce
Cocorico,
que c'est un Cocorico. C'est la marque Lagrange qui fait une yaourtière qui n'est pas très chère. Elle vaut entre 60 et 65 euros et qui est très facile d'utilisation. J'ai envie de vous dire, Laurent, il n'y a rien à faire.
Non, mais c'est surtout vite amorti parce qu'on va rappeler quand même les avantages de faire ces yaourts à la maison, Yves Candebord.
Alors, le premier avantage, il est financier. C'est moins 50%, ce qui est quand même important avec la consommation de yaourt souvent dans une famille.
Vous êtes yaourt, Manu Payet ?
Oh oui, bien sûr. Il faut toujours être un peu yaourt dans sa vie.
Et après, ce qui est aussi important, c'est le choix de la matière première. Je mets ce que je veux dedans et je sais ce que je mets dedans.
Alors, on peut choisir effectivement comme base de départ un bon lait bio, quelque chose qui a du goût déjà.
C'est primordial. La première chose, c'est du lait cru. Et ça, vous le trouvez sans aucun problème. Vous demandez à votre fromager de vous en commander, il vous fera un litre de lait cru. Après, simplement, c'est juste le mélanger avec un yaourt fermier et le tour est joué. On moule, on met dans la machine, 10 heures après, il faut quand même 10 heures.
Oui, il faut
donc
du temps.
À prévoir. Vous avez un yaourt qui est d'une qualité, qui est d'une pureté exceptionnelle. On peut, si on veut, l'aromatiser. Moi, je me suis amusé à me rappeler un peu les vacances. J'ai mis un peu de fleur d'oranger.
Ah,
mais
c'est
après,
bon, ça.
Selon son goût, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, juste pour lui donner une saveur supplémentaire. Surtout ne pas le sucrer.
Oui, ça,
parce
vous
que
êtes
du sucre.
Ça sert à rien.
Et puis c'est surtout qu'on en mange largement assez long. Il faut savoir après que les yaourts qu'on achète dans le commerce, par exemple, quand on prend un yaourt aux fruits, c'est 3 morceaux de sucre par yaourt.
Ah oui, donc tandis que ceux-ci, ils sont censés goûter, tiens, Manu Payet, vous allez
voir
ce que vous en pensez. Alors ça, c'est le fleur d'oranger que vous allez donner à Manu.
Non,
qu'est-ce que vous faites?
J'aime d'aller voir, vous allez voir.
Là, on n'est plus sur du sucré.
On est sur du sucré.
Racontez.
Cet été, je vous ai parlé. Oui. De ma spécialité de l'été.
Votre confiture de tomate ?
C'est une confiture de tomate.
Ah oui.
Avec les citrons au sel, qui est une petite merveille, mélangée avec le yaourt, ça vous fait un sucré salé qui est remarquable.
Ah, c'est super ça.
Parce que souvent, le yaourt, on pense au yaourt toujours en dessert.
Mais non, on peut le prendre pour démarrer un repas, bien
exactement,
sûr.
Exactement, le côté lacté, cette fraîcheur que le lacté amène, il suffit de prendre une planche, de déposer des tranches de jambon dessus, de l'accompagner de yaourt. Avec
Manu Payet, verdict Manu Payet.
C'est très bon, c'est effectivement, c'est inattendu parce que le côté sucré-salé, je ne connaissais pas avec le yaourt et ça marche pourtant très bien.
Ouais. Ça, c'est un yaourt nature à la base.
Là,
hein.
C'est un yaourt nature. Et en plus, là, ça a été relevé avec une pointe de piment.
Ah, que j'adore.
Je pense que c'est très bien que vous allez adorer, mais c'est un piment particulier parce que c'est le piment d'Espelette.
Et oui.
Voilà. Et en version sucrée, à la fleur d'oranger. Donc,
à la fleur d'oranger. Alors, important, Laurent, n'essayez pas de faire des yaourts aux fruits. C'est pour moi une hérésie. On fait un yaourt nature, on prend un fruit de saison qu'on coupe et qu'on dépose dans son yaourt. On n'aura pas de rajout de sucre supplémentaire.
Mais des figues, là, c'est la pleine saison des figues,
et
des mirabelles, des prunes.
On a le goût du fruit. On a le vrai goût du fruit à la bonne saison.
Surtout que les yaourts aromatisés aux fruits, comme je viens de le dire, sont aromatisés avec des arômes de synthèse parce que le fruit ne permet pas de donner le goût au yaourt. Donc prenons le goût originel des fruits de saison et des fruits du moment. Vous êtes d'accord, Manu Payet ?
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord.
Combien de temps les conserve ces yaourts ?
Alors ce yaourt, vous pouvez le conserver sans aucun problème pendant 3-4 jours au frigo, sans aucun problème. Après, Laurent, quand même, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai mis la recette de mon condiment tomate-citron sur le site des Bons Vivants.
Ah, oh, vous êtes sympa.
Ah, ah, mais bon, moi, je vais le goûter, tiens.
Europe1.fr. Nous allons y aller, voilà, découvrir cette recette. Ne bougez pas, on revient dans un instant. On remercie d'ailleurs le traiteur Mavromatis pour cette feta qui vraiment inonde la table des Bons Vivants aujourd'hui pour Manu Payet qui est de retour de Grèce. Et on se retrouve dans un instant pour partager le plat du jour de délicieux petits farcis venus du côté de Nice.
De Nice.
A tout de suite. Magnifique. Sur Europe 1.
Allez,
trois pizzas gratuites à Madame dans le melon du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver à la table des bons vivants. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est la première de la rentrée. Une balade dans le Var à la récolte des figues. Un dossier sur les blés de nos régions pour fêter les moissons. Nous sommes encore un petit peu en vacances. C'est vrai qu'on a du mal à rentrer. Nous avons un invité justement qui rentre tout juste de vacances avant de nous retrouver sur scène, notamment à l'Olympia avec son beau spectacle Emmanuel. C'est Manu Payet.
Salut tout le monde. Bonjour, bonne rentrée. Bonne rentrée, bon vivant.
C'est quoi votre truc, tiens, pour faire passer la pilule de la rentrée ?
Le Xanax. Non,
un antidépresseur, carrément.
Non, pour faire passer la pilule de la rentrée, j'essaie de passer les meilleures vacances possibles, les plus denses, les plus riches. Quand on voit à quelle vitesse ça passe, t'en parles pendant un an. Tu repenses au dessert de ce fameux restaurant qui était là l'année dernière, où tu te dis si on y retourne cette année, il faut absolument qu'on reprenne le Banoffee. J'espère qu'ils font toujours le Banoffee. Qu'est-ce que j'aimerais pas qu'ils le fassent plus, parce que qu'est-ce qu'il était bon l'année dernière. Et hop, tu retrouves ce restaurant et que t'en profites à peine, parce que le jour où on te sert le Banoffee un an après, t'es en train de gueuler sur ta gamine. Non, pas ça. Tu déposes ça, chérie, s'il te plaît. Et bim, tu te retrouves dans l'avion du retour. Profiter de ces vacances quand on y est.
Ramener quelques bouteilles dans ces valises qu'on a dégustées en vacances. Puis les déguster à Paris tranquillement sous la pluie, elles n'ont pas le même goût. Mais
la cuisine, c'est une affaire de famille chez vous, Manu Payet, parce qu'un jour votre papa vous a montré comment faire confiance à quelqu'un.
Ah oui, mon père un jour m'a dit cette phrase magnifique, et c'est depuis ce jour que je me suis rendu compte de à quel point c'était culturel, la bouffe à la Réunion et la table. Je m'étais un peu, je sais pas, j'étais séduit par un mec plus âgé que moi, que je trouvais comme ça, très loquace, beaucoup de charisme, etc. Alors je l'écoutais, je lui posais plein de questions, je me disais sûrement un jour quand je serai grand, je veux être lui. Mon père s'est levé, il était au bout de la table, il est venu me voir, il s'est penché dans mon oreille, il m'a dit... Lui fais pas confiance, à lui il mange rien.
Mais c'est tellement vrai, ouais, voilà. Ouais. Il faut manger, il faut aimer manger quand même quand on est
pas
à
mal,
table.
Hein. Ouais, c'est pas mal.
Et c'est comme les gens qui ne mangent pas de chocolat, faut faire attention.
Exactement. Moi, Et ben cet homme est en prison. Bonjour. Non, je t'école.
Vous avez grandi à La Réunion, la cuisine créole fait toujours partie de votre identité culinaire, Manu.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et c'est des moments où, en fait, c'est des besoins que j'ai parfois. Il faut que j'y retourne. Parfois, je traverse Paris pour aller dans un petit resto créole. Avec mon journal, je vais déjeuner seul, tranquille, à ma table. Oui, il y en a deux qui sont corrects.
Allez-y.
Il y en a deux qui sont corrects. La Charrette créole, oui. Dans le 14e, on n'est pas loin d'ici. Et puis, le Bernica. Bernica, institution réunionnaise. Qui a plus de 35 ans, je crois, d'existence. Malheureusement, je crois que l'aventure touche à sa fin parce que c'est tenu par une famille, la maman, tous les frères et sœurs. Et je crois qu'ils sont fatigués. Alors, ils veulent s'en séparer, ils veulent vendre. Malheureusement, mais enfin bon.
Reprenez, ça, faut le racheter.
Mais
Manu.
Ouais, je devrais faire... Oui, mais alors, moi, je tiens pas deux semaines. Hein.
Après l'Olympia, après la tournée. Tiens, à propos de la tournée, je rappelle que vous êtes du 12 au 14 septembre à Toulon et le 18 et le 19 à Nantes.
Exactement.
Pour votre belle tournée.
On prépare l'Olympia, on fait la captation du spectacle à l'Olympia, les 21-22. On filme le spectacle.
Alors, il est midi passé, c'est l'heure du plat du jour. Les amis, on vous emmène dans les coulisses d'un plat du pays niçois. Ce sont les fameux petits farcis. Et Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le midi, nous présente Huguette. Elle a du tempérament, elle a du caractère. Huguette, c'est une célèbre cuisinière au pied de l'Audiberg à Andon, dans les Alpes-Maritimes. C'est juste au-dessus de Grasse. Elle se lève à 3h30 du matin tous les jours pour se mettre au fourneau. Son restaurant, c'est à la Bonne Franquette. Comme les petits farcis niçois, découvrons ceux d'Huguette.
Déjà, je fais blanchir des oignons, des courgettes, des poivrons. Vous les mettez dans l'eau, vous les laissez bouillir, même pas 5 minutes. Après, vous les sortez. Vous gardez le bouillon qui me servira pour mettre au fond des plaques pour pas que ça accroche. Après, je fais ma farce. Je mets du jambon dedans, de la viande, un petit peu de viande, mais très peu. Après, je mets de la mie de pain trempée dans le lait, de l'ail, du persil, des œufs, du riz et le dedans que je creuse, tous mes légumes que j'ai fait blanchir. Et après, avec une cuillère, je remplis, avec la farce que j'ai fait, je remplis les farcis. J'y mets un peu de persil dessus, de la chapelure, un peu d'huile d'olive et je passe au four. Chaud, four chaud. Et après, on baisse un peu pour pas que ça brûle. 150, 160. Voilà, four très fort au début.
Pendant combien de temps ?
Ben, ça cuit quand même bien 20 minutes. D'ailleurs, voyez mes petits farcis,
Montrez-moi.
Ils sont dans le four. Vous les voyez ? Dans cela, il y a de la courgette, de la tomate et des oignons. Comme il y a plusieurs légumes, ça donne de bon goût. Parce que si, par exemple, on ne fait que des oignons ou que de la courgette, c'est pas pareil. C'est le mélange qui va faire le goût. Vous voyez, je mets un peu de bouillon au fond pour pas que ça accroche.
Voilà. Ça, c'est une bonne petite astuce.
Et oui. Oh, vous savez, je donne mes recettes volontiers, finalement. Hein. Et puis, je fais beaucoup de choses. Et toutes les pâtisseries, je les fais moi-même. D'ailleurs, je vais faire attention laisser brûler mes tartes au citron. Sinon...
Ah bah oui, eh oh, pas cramé la tarte au citron, Huguette.
Encore quand c'est un peu caramélisé, c'est pas mal. Hein.
Alors ça fait débat, est-ce qu'on blanchit ou pas les légumes avant de faire des petits farcis? Yves Courdebord, on n'est pas obligé, mais Huguette, elle a envie de faire comme ça.
Je dirais qu'il n'y a pas de débat, parce que je pense qu'il y a autant de recettes qu'il y a de grand-mères.
Hein. Exactement.
Voilà. À un moment donné, je pense que c'est des recettes traditionnelles françaises, chaque famille a son petit secret, et chaque famille est persuadée que c'est les meilleurs. Et c'est ça qui est beau, quand on va chez des gens qui nous préparent un plat et qui vous... Ils sont sûrs et certains que c'est le plus beau plat du monde.
Ah, mais il y a du monde a qui vient manger ces petits farcis.
Bien sûr, hein. Et ça ne m'étonne pas. Mais moi, j'ai envie d'y aller quand je l'entends.
Hein. Eh bien, merci Huguette. On a envie de la rencontrer, absolument. Ne bougez pas. On continue à faire connaissance avec Manu Payet, qui est notre invité. On revient tout de suite, juste après ça. Et nous répondrons aussi aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants. Bon samedi midi sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Le parrain de la saison 2 a un bel appétit, c'est Manu Payet. Et avant de brûler les planches de l'Olympia les 21 et 22 septembre, il est venu prendre des forces au studio Coluche à Europe 1. Blague à part, Manu, vous faites un régime spécial avant de monter sur scène et avant de faire une grande tournée comme vous la faites là ?
Je devrais. Là, je suis rentré de vacances. Alors, ne vous pesez jamais quand vous vous pesez en rentrant de vacances. Ne vous pesez pas déjà, du coup. Mais si vous le faites, ne le faites pas sur un tapis. Parce que le tapis, quand vous mettez la balance dessus, amortit le truc et vous fait gagner au moins 2-3 kilos.
Mais non,
je vous jure, c'est vrai. Et donc, moi, je suis monté dessus, je me suis dit. Ben ça va.
Ah ben c'est bon.
Moi qui me sentais à l'étroit dans mes fringues. Et ensuite, tiens, je me suis dit, c'est bizarre quand même. J'ai déplacé la balance, j'ai mis sur le sol, sur le dur. Et là, elle a dit la vérité.
Attention.
Et il faut que je reprenne des formes à peu près montrables pour l'Olympia, effectivement. Mais alors, c'est pas facile à conjuguer avec mon autre passion.
Qui est la cuisine.
Okay, oui.
Eh oui, ben c'est bien. Vous êtes au bon endroit, en tout cas. Et on va répondre justement aux questions que vous posez au 39-21, les amis. Voici une première question.
Bonjour, je m'appelle Nadia, je viens de Chambéry et j'avais une question pour la table des bons vivants. En fait, je voulais savoir comment faire des tomates confites, si vous pouviez me donner la technique ou la recette. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.
C'est la pleine saison des tomates. Alors là, si on veut les confire, les faire en coulisses, c'est vraiment la pleine saison. C'est maintenant qu'elles sont le meilleur, on est d'accord, Yves Courdebord.
C'est maintenant qu'elles sont le meilleur, parce que c'est maintenant qu'elles sont les plus charnues, il y a plus de chair. Et c'est vrai qu'une tomate confite, c'est assez particulier à faire. L'idéal, c'est de prendre une variété de tomate qui s'appelle la Roma.
Oui.
Là, c'est un genre d'olivette.
Un peu allongée.
Voilà, un peu allongée, parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de chair et elle est intéressante. Alors, il suffit de la couper en deux, d'enlever avec la cuillère ou de presser légèrement, d'enlever les pépins. Après, moi, j'ai une petite astuce. Une fois que vous avez fait ça, vous les mettez à plat sur une plaque. Vous les salez légèrement. Vous les salez. Et là, vous allez les laisser reposer pendant 1 à 2 heures. Le fait de les avoir salées...
Elles dégorgent.
Elles vont dégorger, comme on fait dégorger, par exemple, un concombre. Ça va enlever un maximum d'eau de la tomate. Une fois que vous avez fait ça, vous les remettez sur une plaque pour aller au four. Alors, vous mettez, bien sûr, le côté plat au contact de la plaque. Vous les assaisonnez de sel de poivre. Vous pouvez y mettre, si vous voulez, un peu de pétain, un peu de laurier, un peu de romarin. Je dirais envie de vous dire, mettez un peu le goût que vous avez envie.
Les vraies herbes de Provence, oui.
Les vraies herbes de Provence, pas les herbes de Provence qu'on achète toutes prêtes.
Non, c'est pour ça que je dis les vraies en brun, pas celles qui viennent de Turquie et
voilà,
qui sont
exactement.
Toutes sèches. Oui.
Et après, vous les mettez dans un four. L'idéal, c'est de le faire la nuit. Vous mettez un four à 80 degrés durant toute la nuit. Vous les mettez, ça va durer 6 à 7 heures. Quand vous le matin, vous avez une tomate. Voilà, qui est confite, qui est séchée.
Et soit on s'endort avec les tomates et on se réveille avec les tomates confites.
Et on s'endort sans odeur et on se réveille avec l'odeur
c'est
de la
garligue.
C'est magnifique.
Et on garde la peau de la tomate.
On garde la peau de la tomate. Moi, je préfère. Alors, il y en a qui vont vous dire qu'il faut les enlever avant. Mais si vous l'enlevez avant, votre tomate,
elle va plus tenir.
Il n'y a pas tellement de tenue.
Oui, oui.
Et une fois que la peau est confite, moi, je trouve que ce n'est pas très dérangeant. Après, pour les conserver, soit vous les utilisez de suite, vous les mettez dans une salade, vous pouvez les mettre dans des pâtes, ou alors. Carrément, mettez-les dans un peu d'huile d'olive au frigo et ça, vous pouvez vous les garder pendant quelques semaines
c'est
sans
tout
aucun
bon.
Problème.
Merci Yves Courdebord. Une question, tiens, Manu Payet, c'est une nouveauté cette année. On va demander à nos invités de poser une question sur un truc en cuisine où on pourrait vous donner un coup de main.
Ne me demandez pas comment faire rougail. Hein.
Non, ça, il sait faire. Hein. Moi non plus, ne me demandez pas.
Non, ça va encore. Ça va à peu près. En revanche, à chaque fois que j'essaye, je me la foire carrément. Et la question est très simple, c'est la mayonnaise.
Ah bon ?
À chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, bon, je vais quand même, je vais réessayer. Et je pense que là, ça devrait marcher, puisque j'ai foiré 3-4 fois maintenant. Normalement, ça devrait fonctionner.
Que le jaune, hein, pas le blanc, hein, pour la mayonnaise.
Oui, je sais bien, je sais bien. Pourtant, j'ai regardé les techniques, je suis allé sur YouTube. Je pense que je n'ai pas la patience. Ou alors, je me dis déjà, en la commençant, que je vais la foirer.
Ah ben non, il ne faut pas. Oui, c'est vrai que
Est-ce que ce n'est pas le débit d'huile qui est trop rapide au début ? Parce que souvent, quand on rate la mayonnaise, c'est qu'on a un débit d'huile qui est trop rapide au début. Il faut y aller très, très, très lentement, dès qu'on voit que ça commence à prendre. Et après, on peut accélérer le mouvement. Mais c'est vraiment au tout début que le débit d'huile doit être minimum. Et puis je rappelle à destination de mon ami Yves Candebordes, car nous avons été effectivement
chahutés sur les réseaux sociaux,
que dans une mayonnaise traditionnelle, il n'y a pas de moutarde. On peut évidemment en rajouter, bien évidemment, c'est délicieux, tout le monde le fait, mais que dans l'escoffier, dans l'histoire de la mayonnaise, mon cher Yves, au tout départ, il n'y a pas de moutarde.
C'est du sel, effectivement, un petit peu de vinaigre, le jaune d'œuf, et puis l'huile.
C'est vrai qu'escoffier, on n'en mettait pas, mais historiquement, en France, on en met
même. Tout le monde en met.
Et puis, c'est tellement meilleur.
Après, il y a quand même une chose importante, je reviens sur la mayonnaise, parce que je ne voudrais pas que vous la rouloupiez une autre fois.
Merci beaucoup.
La base de ça, c'est que tous les ingrédients doivent être à même température. Si vous sortez les œufs du frigo et que vous prenez l'huile dans le placard,
ça
marche
pas.
Sûr que ça ne marchera pas.
Alors, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Scientifiquement, Hervétis a démontré le contraire.
Oui, mais...
La mayonnaise est une réaction physique.
Sur un autre débat.
C'est une réaction purement physique
c'est la rentrée.
Qui n'a rien à voir avec la température des ingrédients.
Nous referons un débat. En tout cas,
vous pouvez faire comme vous voulez.
En ce qui vous concerne, Manu Payet, réglez votre débit d'huile. Débit d'huile et vous verrez, ce sera tout bon. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions tout au long de la semaine, du week-end et de l'année. Le 39-21 vous attend et le groupe Facebook des bons vivants. Manu Payet est notre invité. C'est bientôt l'heure de vous découvrir de l'autre côté de la fourchette, Manu, avec le questionnaire des bons vivants. A tout de suite et bon samedi, on est content de vous retrouver.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
L'admirable cholestérol qu'on va se payer.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. La table des bons vivants déplie les rallonges depuis 11h. Manu Payet est notre invité.
Bonjour.
Bon vivant, homme de goût. Bonjour Manu. Il se raconte dans Emmanuel sur la scène de l'Olympia les 21 et 22 septembre. Gourmand ou gourmet ?
Les deux, je pense que c'est important d'avoir les deux talents.
L'heure des 2 minutes du vin d'Olivier Pouls a sonné, Manu Payet. Vous êtes né sur l'île volcanique de La Réunion. On y fait du vin, à La Réunion ?
Oui. On y fait un peu de vin, mais enfin, c'est pas notre grande, notre grande spécialité, non.
Mais
non,
oui, c'est le vin Sillaos. Il y a un petit vignoble plutôt en altitude, d'ailleurs.
Exactement, Sillaos.
Sillaos, près de la lentille, Sillaos.
Exactement. Je crois que la lentille est meilleure.
Ça avait été interdit, non ? Il y avait pas le cépage à Jacqueline qui rendait fou ?
Ouais, c'est ça.
Bien sûr. Non, mais c'est pas une blague.
C'est pas une blague.
C'est un cépage.
Ah non, mais je sais que c'est pas une blague. Moi, je l'ai pas dit, mais enfin bon.
J'ai fait le GRE, moi, une fois.
Ah, je connais. Alors, Olivier, vous allez nous parler des vins d'une autre île, c'est l'île de beauté, la Corse, et ses vignobles, parce qu'il y en a des vignobles en Corse.
Magnifique vignoble, parmi les plus beaux de France, d'Europe, très vieux vignoble, on faisait déjà du vin en Corse du temps des Grecs, puis des Romains, puis il y a une histoire un peu compliquée, ça a été plutôt bien, plutôt moins bien, et on va dire que depuis les années 90, et l'arrivée vraiment d'une nouvelle génération, le vignoble corse a repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vignoble ?
Alors d'abord, c'est un petit vignoble, il fait à peu près 7000 hectares, répartis tout le long du littoral. Il y en a du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais surtout la diversité des sols et la diversité des cépages. Parce qu'en Corse, il y a une vraie identité empélographique, c'est-à-dire des cépages très propres à l'île, qu'on trouve pratiquement nulle part ailleurs et qui donnent vraiment une caractéristique propre au vin corse.
C'est ce qu'on appelle les cépages endémiques, c'est lesquels alors ?
Par exemple, le Nieluccio, qui est un cépage rouge qui donne des vins très tendres, très délicats, pas très colorés, mais avec beaucoup de finesse. Le Siacarello, bien sûr, qui est un cépage aussi emblématique du vin rouge. Pour les cépages blancs, le Vermentino, je vous en ai apporté un, tiens, vous allez déguster ça, d'un très joli domaine, le domaine d'Alzipratu, en Corse du côté de Calvi, un vin d'une belle finesse,
Pumonte.
Une belle fraîcheur, voilà exactement la cuvée Pumonte.
C'est droit, c'est frais, c'est fruité en même temps aussi ça.
Mais c'est un peu le style des vins corse, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce sont des vins qui tapent, qui sont des vins de soleil, pas tant que ça, parce qu'entre l'altitude, les cépages adaptés, les terroirs, on garde toujours beaucoup d'élégance, toujours beaucoup de fraîcheur et un côté très digeste dans ces vins.
Ils sont de plus en plus à la mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une incidence sur les prix, les prix gonflent?
Ils sont chers parce que d'abord, on en produit peu et évidemment, il y a une grosse consommation locale, ils en exportent assez peu. Et puis parce que c'est des vins aussi qui sont compliqués à produire. Il faut être allé en Corse pour voir qu'il y a de la pente, le terrain est hostile et donc ce sont évidemment des vins un peu plus chers que les autres vins du continent. On va trouver des vins à partir de 15-20 euros et parfois un peu plus.
Tiens, mettez votre casquette de caviste, Olivier Pouls, et faites-nous une petite sélection, tiens, pour le week-end et puis pour bien attaquer la rentrée.
Voilà, allez-y, Pratou dont on parlait, mais on ne peut pas parler de la Corse sans parler d'Antoine Arena, de Yves Leccia, du Clos Canarelli, de tous ces gens qui ont fait tellement de bien à la Corse. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut redécouvrir ces vins.
Eh bien, merci. On retrouvera évidemment les références sur europe1.fr. Merci Olivier. Manu, c'est l'heure de vous passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Ça chauffe,
ça
crépite, c'est un barbecue.
Attention, ça va brûler.
Quel est le goût de votre enfance, Manu Payet?
Alors moi qui suis plus pourtant salé que sucré, beaucoup plus, je dirais quand même le lecci. Nous prononçons lecci, nous l'écrivons L-E-T-C-H-I, c'est le fruit, le litchi, qui pousse à La Réunion au mois de décembre. Et qui est, pour moi, je crois que je saurais reconnaître un litchi de La Réunion, litchi d'ailleurs.
On a la chance d'en trouver vers janvier-février avec des branches, hein, le fameux litchi branche qu'on a sur nos étals, qui n'a rien à voir avec le litchi qui était dans des bains de soufre qu'on trouve un petit peu tout le temps.
Qui n'est pas rouge.
Et qui n'est pas rouge, comment vous l'appelez?
Comme notre litchi.
Litchi. Votre plus beau repas?
Le repas de ma grand-mère, toujours à La Réunion donc évidemment, et tout ce qu'elle cuisait au feu de bois. Il y a beaucoup de Réunionnais qui ont une cuisine à l'arrière de la maison où on cuit les caries, les rougailles qu'on fait chez nous généralement, mais au feu de bois. Et je dirais que le civet de poulpe de ma grand-mère au feu de bois, c'est quelque chose des enfants que vous ne goûterez pas malheureusement. Je vous annonce quand même une mauvaise nouvelle, c'est que ma grand-mère est partie. Mais alors, regardez dans mes yeux.
Ça fait envie. Ah oui,
voyez,
il est là, le civet.
Vous voyez ce que je veux dire?
On voit le civet de poulpe. Voilà. Et votre pire repas, Manu Payet?
Mon pire repas, c'était la semaine dernière en Grèce. C'est vrai, en plus, parce que j'ai écouté, il s'appelle Mathias, tiens, je vais le citer, qui dit, alors si vous en avez marre de bouffer grec, il y a un petit Italien. Alors je vous garantis, on y est retourné avec ma femme. On y est retourné, c'est vous dire. Sur 10 jours de vacances, on l'a fait 2 fois. C'est dingue, on va le faire quand même ce truc. Et c'est vrai que l'année dernière, on était déjà passé devant. Je dis, bon, écoute, on était un peu snob. Et puis on s'est installé. Et je me suis dit, ces gens-là qui nous accueillaient sont beaucoup trop gentils pour que ce soit bon.
Ça sent l'escroquerie. Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer, c'est une nouvelle question, Manu Payet.
Ah, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent et qui resteront du côté du mystère. J'avais lu ce texte où l'on parlait de Mitterrand et de son amour des ortolans.
C'est interdit.
On pourrait y arriver, ça.
Ouais, mais je sais que c'est interdit.
Mais dans le sud-ouest, sous le manteau, parfois, oui.
Mais je sais pas si devant, une fois face au truc, je pourrais y aller. Ça,
je sais pas
parce que ensuite j'ai vu Maïté en parler et aller le voir, la vidéo est sur YouTube.
Elle suceote l'ortolan.
Oh là là,
c'est magnifique cette vidéo, il faut aller la voir.
Mais aller la voir, la vidéo, c'est vraiment dingue. Le plat que j'aimerais essayer, franchement, ce serait plutôt des pays que j'ai pas encore visités, dont j'aimerais connaître la gastronomie. Moi, j'adore quand je voyage, découvrir les pays à travers leur gastronomie.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Manu Payet?
Des œufs.
Oui, vous allez tenir là.
Oui. Comme ça, je pourrais les faire.
Voilà. Mollet.
Et puis aux oursins, parce que je serai sur une île.
Ah, une brouillade aux oursins, c'est magnifique.
Ah ouais, voilà.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Oh, des copains, la famille, des bons vivants. Pas le mec dont mon père m'avait dit, lui fais pas confiance à lui, il mange rien. Non, des bons vivants. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est dingue, c'est les gens qui s'attablent et qui réussissent à ne pas évoquer une seule seconde ce qu'ils sont en train pourtant de se mettre dans la bouche, alors que pendant tout le repas. Et un soir, j'ai même dit, attendez les mecs, vous voulez pas qu'on fasse pause? Est-ce que c'est bon ce que vous bouffez?
C'est vrai.
Ça fait une heure qu'on parle de tout et de rien, et vous mangez, vous engloutissez les trucs.
Vous avez raison.
Et en fait, vous ne profitez pas.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Manu?
À table, bordel.
Nous sommes. Merci beaucoup d'être venu. On vous applaudit, Manu Payet.
Merci beaucoup.
Merci infiniment d'être venu à la table des bons vivants. Vous serez sur la scène de l'Olympia les 21 et 22 septembre et en tournée dans toute la France. On va venir vous voir.
Avec plaisir.
Votre affiche nous fait envie et votre humour nous plaît également.
Merci beaucoup.
Merci à Lucie Lescourou, Julien Amat de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation. Agnès Vaudin, une nouvelle venue à la programmation. Les recettes de figues et les petits farcis du guette sont à la carte sur Europe 1. francebleu.fr. Vous retrouvez également le podcast. Et rendez-vous samedi prochain, nous recevrons Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Sera à votre place, Manu Payet.
Mettez une cravate.
Et oui, absolument. En plus des dossiers liés à notre alimentation, nous le découvrirons de l'autre côté de la fourchette. Voilà, vous savez tout. Bon week-end, faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Et bonne rentrée.